Retour sur le plateau d'International, nous recevons aujourd'hui Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint de l'ONU, président d'UNITED, ancien ministre français des Affaires étrangères. Et juste avant cette pause d'actualité, nous parlions, Sophie Malibaud, d'Ebola.
Oui, quid de la responsabilité de l'Organisation mondiale de la santé pour avoir mis plus de 5 mois à déclarer la maladie comme une urgence de santé publique?
Alors d'abord, l'Organisation mondiale de la santé... Je crois que on peut dire beaucoup de choses, mais s'il y a bien des gens sérieux qui font les normes de toute la santé publique dans le monde, c'est l'OMS. Donc, moi, je suis un grand admirateur de ce qu'est l'Organisation mondiale de la santé. Ensuite, question que vous posez est très importante.
5 mois, c'est long.
Non, mais bien sûr. Avec du recul, on le voit, c'est très long. Il n'y a pas, aujourd'hui, une force d'action rapide pour répondre dans l'urgence à l'OMS. Je le regrette. Il faut la mettre en place. Ce sont les pays qui donnent de l'argent tous les ans à l'OMS qui doivent avoir ce discours. Il faut arrêter d'avoir des discours purement techniques à l'OMS. Il faut avoir des discours politiques. Pensez au bioterrorisme. Il y a un plan à l'OMS pour le bioterrorisme. Je suis pas sûr.
Or, les États en ont.
Comment ?
Les États en ont.
Oui, les États en ont. Devraient, aujourd'hui, faire une coalition contre le bioterrorisme au sein de l'OMS, etc., etc. Deuxièmement, l'argent. Tout n'est pas une affaire d'argent, mais enfin, quand même, quand je vois ce que Margaret Chan est obligée de faire en licenciant 300 personnes depuis 2 ans, ça donne une ambiance terrible. Donc, arrêtons, je crois, de dire que l'OMS... alors, maintenant sur le retard, parce que c'est très important ce que vous dites.
Oui, 5 mois, on a l'impression que ça va passer.
Peter Piot, qui est un de nos amis, un de nos collègues, épidémiologiste, a découvert, belge donc, a découvert le virus Ebola en 1976. Depuis, on est habitué, tous les X années, 3, 4, 10 ans, une petite résurgence. Chaque fois, c'est une résurgence. Là où vous étiez, M. Barou, c'est-à-dire dans la campagne, dans les forêts, dans les campagnes africaines. Cette fois-ci, pour la première fois, est-ce que c'est dû à cette guérisseuse qui était en train de soigner plusieurs personnes à la fois de différents pays et qui ont ensuite essaimé dans les différents pays et qui sont allés ensuite dans des villes? C'est la première fois que l'on a un phénomène comme celui-là, absolument déroutant, un virus létal, qui est en train de se disséminer dans tous les pays. Ça, je crois que personne ne pouvait y penser au départ.
Est-ce que c'est de nature à pouvoir peut-être un jour provoquer la stupeur, l'inquiétude du sida?
Ah non, mais là, on a affaire à quelque chose qui est absolument terrible, terrifiant. Je veux dire, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Personne ne peut vous dire aujourd'hui ce qui va se passer.
Le président du Libéria dit « ça peut faire disparaître mon pays ».
Non, mais je crois que si vraiment la réponse, ce qui est le cas, avec une coalition, j'appelle une coalition internationale contre Ebola. Et il faut que, pendant la prochaine Assemblée générale des Nations Unies, il y ait, derrière Navarro, qui est aujourd'hui l'envoyé spécial du secrétaire général Ban Ki-moon là-dessus, il faut qu'il y ait une coalition, il faut qu'on mette beaucoup d'argent, les uns et les autres, pour arrêter ça, tant qu'on peut l'arrêter, en Afrique. Vous vous rendez compte, le nombre d'avions tous les jours qui traversent le virus Ebola n'a pas de frontières. Donc, alors on fait des petits repérages sur la prise de température par laser à l'arrivée dans les pays. Enfin, ça ne suffit pas.
Qu'est-ce que vous pensez du réflexe de quarantaine? Certains États prennent des mesures de confinement. Par exemple, en Sierra Leone, il devrait y avoir des mesures de confinement des populations du 19 au 21.
Dénoncé par Médecins Sans Frontières, d'ailleurs.
Oui, moi je suis... D'abord, je voudrais saluer Médecins Sans Frontières, parce que c'est quand même eux qui, une fois de plus, ont vraiment tiré le signal d'alarme. Ce sont des gens extraordinaires avec qui nous travaillons beaucoup à UNITED. Je suis contre, évidemment. C'est comme si on arrêtait les vols. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui voulaient arrêter les vols pour aller dans ces pays. Bien évidemment, non. Ça serait terrible.
C'est ajouter une crise économique à la crise sanitaire.
Une crise économique, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre tout ce qui est possible et inimaginable pour aller là-bas, les soigner et essayer d'arrêter et enrayer les choses.
Rémi Barreau.
Est-ce que vous pensez que les services sanitaires des armées, l'armée française, l'armée américaine, qui ont les capacités et la logistique, doivent intervenir?
Bien sûr. Bien sûr, moi je crois que c'est ça la coalition internationale. C'est qu'il faut aller sur place avec nos connaissances. Le pronostic d'Ebola, quand vous avez Ebola, vous avez en Afrique, aujourd'hui c'était 90%, maintenant je crois que c'est 70-75% de risque de mort. Bon. Si vous êtes traité dans des soins intensifs dans des pays occidentaux, je crois qu'on passe entre 10 et 20%. Bon. Non, je dis pas qu'il faut mettre des soins intensifs, mais enfin, je dis simplement que déjà soigner comme il faut les gens, éviter qu'il y ait tous ces morts, parce que avec les rites funéraires, avec les habitudes culturelles africaines, il y a aussi des propagations très très rapides. Donc je crois vraiment, mais un dernier mot, qu'est-ce que ça veut dire Ebola ? Ebola, ça veut dire que l'extrême pauvreté s'accompagne de corruption. L'extrême pauvreté s'accompagne de non-éducation. Et l'extrême pauvreté s'accompagne de conflits et de guerres. Sierra Leone, Libéria, Guinée, Conakry, que des endroits où il y a eu des guerres pendant des 20, 30 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Ils ont tout fait, sauf, même nous, mettre en place des systèmes de santé. Alors, même United, moi, United, ce qui m'intéresse, c'est que je montre que des micro-financements mis bout à bout peuvent apporter des milliards. C'est ça, mon but politique. Mais on fait ce qu'il faudrait faire. C'est pas apporter uniquement des médicaments, c'est mettre en place des systèmes sanitaires. Et le serment d'Abuja, c'est quoi le serment d'Abuja il y a 15 ans ? Monsieur le ministre de la Santé de tel pays africain, oui, je vous aiderai, mais vous, mettez 15% du budget dans la santé. Or aujourd'hui, malheureusement, tout part à la guerre, tout part dans les ministères de la Défense.
Mais justement, au Libéria, ils ont mis, je crois, 18% de leurs dépenses dans la santé. Ça n'a pas empêché de faire qu'ils sont le pays le plus touché.
Bien sûr, mais depuis combien de temps ? Depuis que Madame Hélène Sirleaf est là, c'est-à-dire depuis 7 ans. Vous savez comme moi, politique de santé, ça prend 20, 30, 40 ans, mais il faut le faire.
Rémi Barreau.
Mais est-ce que les Occidentaux n'ont pas aussi une responsabilité ? On a souvent conçu l'aide sanitaire dans des programmes bilatéraux, mais dédiés à des maladies. On disait, voilà de l'argent pour la protection maternelle infantile, pour le sida. Est-ce qu'il ne faut pas dire à un moment donné, l'argent, on veut juste construire des hôpitaux, que vous ayez des ambulances et des personnels formés, et ne pas rentrer dans des programmes seulement dédiés, même s'il en faut.
Mais bien sûr, mais sans même aller jusqu'aux hôpitaux, des dispensaires dans l'ensemble du territoire d'un pays, ne pas attendre que les gens soient obligatoirement médecins, et peut-être trouver quelque chose entre l'infirmière et le médecin de brousse, on va dire. Le personnel, je crois que l'Afrique paye 30% de la morbidité, le nombre de maladies dans le monde. Pour 30%, c'est en Afrique. Et en termes de professionnels de santé, c'est 1%. Donc, il n'y a pas de professionnels de santé. Donc, la grande urgence, c'est de mettre en place un système de santé minimal en Afrique. Surtout ne pas vouloir faire des grands CHU pour faire comme, disons, en Occident. Parce que avec l'argent d'un CHU qui va servir à quelques personnes de l'élite, entre guillemets, vous pouvez sauver des millions d'enfants. Donc, l'idée, et vous avez tout à fait raison, je crois que c'est de prendre le FMI, qui donne beaucoup, la Banque mondiale, qui donne beaucoup, et puis les agences onusiennes comme l'OMS, comme le PNUD, comme l'UNICEF, et faire un jour une très 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 grande conférence entre nous, et en disant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut certainement mettre en place des systèmes de santé.
Vous mentionnez le FMI, le Fonds monétaire international a longtemps défendu des politiques dans ces pays-là libérale, qui ont amené finalement à la dégradation des systèmes de santé.
Mais c'est bien pour ça que je parle du FMI. Je suis complètement d'accord avec vous, je pense qu'il y a eu des erreurs. De fait, il faut faire, je dirais, tirer les leçons et jeter les bases d'un système de santé public dans les pays les plus pauvres du monde.
Rémi Barreau, Le Monde.
Oui, parce que sur d'autres dossiers, comme par exemple l'idéal d'une protection sociale universelle, qui serait une aide dans la lutte contre ces pandémies, on s'aperçoit que ça n'avance pas tellement.
Non, parce que, si vous voulez, je crois que, là aussi, je travaille beaucoup avec la Fondation des financements innovants, avec Robert Philippe. Et c'est un sujet que nous voulons aborder. Si, imaginons que les financements innovants arrivent par l'intermédiaire du pétrole, du gaz, des mines, un jour on est 1 milliard de dollars par an. Moi je crois que ce jour-là, il faudra essentiellement le mettre dans, en prenant 5-6 pays pilotes, et en expliquant que nous allons mettre en place un système de santé de base. Vous verrez que la croissance de ces pays passera de 4-4,5% à 11% en l'espace de 4-5 ans. Parce que, je vais prendre juste un exemple, une maladie que personne ne connaît. Personne ne connaît. La malnutrition chronique. Ce sont des enfants, vous les voyez, ils vont très bien, ils jouent au foot. Sauf que pendant les 1000 premiers jours de leur vie, 9 mois de grossesse et les 2 premières années, il leur a manqué de la vitamine B1, B6 et des lipides, des graisses. Au bout de la deuxième année, un neurone sur 5 ou sur 6 est détruit. Ce sont des enfants qui vont à l'école, qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Retard scolaire. Vous savez combien il y a d'enfants en Afrique subsaharienne comme ça? 30%. Comment voulez-vous, avec rien du tout, au Cameroun par exemple, avec 5 millions de dollars par an pendant 5 ans, vous régler le problème de la malnutrition chronique? Voilà quelque chose qui devrait être fait entre Fonds mondial, FMI, Fonds mondial, Banque mondiale et bien évidemment l'ONU. Ça serait très vite fait. Et vous changez totalement l'économie de l'Afrique.
Alors vous parlez de pays qui sont confrontés à cette pauvreté extrême. Vous parlez à l'instant du Cameroun, le Nord Cameroun ou le Nigeria. Il y a en même temps ce terrorisme, Boko Haram. Il faut commencer par quoi? Qu'est-ce qu'il faut régler en premier lieu? Le monde va mal parce qu'il est très pauvre en Afrique ou parce qu'il y a des idéologies qui dévastent tout?
Non, moi je pense que... je suis médecin et je pense que l'humiliation, c'est... la pire chose que nous avons en nous, dans le noyau dur, quelqu'un qui est humilié est capable de tout. Alors, on le voit dans nos vies privées, on le voit dans nos vies familiales, on le voit dans nos vies professionnelles, et on le voit dans la vie politique, internationale. Comment voulez-vous que des gens qui ne peuvent pas manger tous les jours, en République démocratique du Congo, sur 4 personnes, il y en a un qui va manger le lundi, l'autre le mardi, l'autre le mercredi, l'autre le jeudi. Je l'ai vu il y a quelques jours.
Pourtant, c'est un pays riche.
Non, mais oui, voilà. De l'autre côté, lorsque vous voyez ces gens-là qui ont leurs petits frères, leurs petites sœurs, qui meurent de palu parce qu'il manque 40 centimes de dollars.
30 centimes d'euros. Hein.
30 centimes d'euros. Il manque. Là. Donc, il meurt. Bon. Quand nous... on voit ce qu'on fait lorsque le petit-fils ou la fille est hospitalisé à Necker. Le drame que ça...
Grand hôpital parisien.
Grand hôpital parisien. Très bien. Lorsque ces gens-là, par Internet, vont apprendre combien vaut un repas à Paris ou à New York, il y a de quoi quand même. Si quelqu'un vient à côté de vous en disant « Regarde ça, il y a des injustices au nom de... » Alors malheureusement, ça peut être Dieu, ça peut être autre chose. Et c'est ça, aujourd'hui, le terreau. Si les Occidentaux très rapidement, ne se réveille pas. Et bien sûr qu'il faut faire la guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des djihadistes qui décapitent des gens. Mais il faut surtout faire la guerre à l'extrême pauvreté. C'est l'extrême pauvreté qui va nous entraîner notre chute.
L'après-deuxième guerre mondiale a été marquée, vous le rappelez tout à l'heure, par sa création, par une structure importante, celle de l'ONU, dont vous êtes secrétaire général adjoint. Est-ce que cette ONU, qui représente mal le monde moderne, il n'y a pas un pays africain, le Nigeria, l'Afrique du Sud n'y sont pas, puisqu'on parlait beaucoup de l'Afrique, est-ce que l'ONU aujourd'hui est encore un outil qui prévient les crises et qui peut régler les problèmes que nous évoquons ici? Ou est-ce que c'est un magnifique objet duquel personne ne dira jamais de mal, mais qui ne marche plus?
Alors d'abord, les Nations Unies, ce n'est rien d'autre donc que la somme des pays. Donc, quand on est au Conseil de sécurité, c'est pas le secrétaire général.
Oui, mais quand il y a des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale uniquement au Conseil de sécurité,
c'est Monsieur Hollande, c'est Monsieur Obama, c'est Monsieur Cameron, et voilà, c'est comme ça. Ne faisons pas croire que l'ONU est indépendant. Ce sont ces personnes dont je viens de vous parler.
Donc, ça changera pas.
Non, attendez, deux choses. Là. D'abord, c'est le dernier lieu de dialogue. Et on le voit aujourd'hui, c'est un lieu de dialogue qui est inestimable. S'il n'y avait pas d'ONU, il y aurait beaucoup plus de conflits et beaucoup plus de guerres. J'ai eu l'extrême chance et l'honneur de présider comme ministre des Affaires étrangères pendant 6 mois le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est vraiment quelque chose qui sert énormément. Mais non, ça a été fait après 1945. Et à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas les ONG, il n'y avait pas d'Internet, le téléphone ne marchait pas comme aujourd'hui. Mmh. Et donc là, je crois en effet qu'il faut peut-être faire, je dis modestement, mais ce que nous avons fait au conseil d'administration d'United, qui avons-nous ? Les chefs d'État, mais nous avons aussi Bill Gates et sa fondation qui est du privé. Ils ont des choses à dire. Il y a aussi les ONG qui sont là. Comment aujourd'hui diriger le monde sans parler à la société civile? C'est impossible. Donc ça, je crois qu'il faut faire une très 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 grande réforme de ce
monde. Rémi Barou, le monde.
Comment peut-on arriver à une cohérence de la part des États? Les mêmes gouvernements ne disent pas la même chose quand ils siègent à l'OMS, quand ils siègent au FMI. Le ministre de la Santé ne tient pas toujours le même discours que le ministre des Finances. Comment arriver à cette cohérence qui permettrait en effet d'avoir des politiques efficaces? La France ne dit pas la même chose quand elle siège à l'OIT, quand elle siège au FMI ou à la Banque mondiale.
Non, je crois que la France, de toujours, a été... les pouvoirs dans ce pays sont suffisamment centralisés en termes de défense, en termes de politique étrangère, pour dire que c'est le chef de l'État, quel qu'il soit, qui tient... qui est à la manœuvre, on va dire. Non, je pense que là où nous manquons d'homogénéité... c'est peut-être dans le fait d'organiser différemment les prises de décisions. Je crois que, d'abord, évidemment, la question de savoir, est-ce qu'on doit rester à 5 au Conseil de sécurité des Nations Unies ? Comment éviter demain l'Afrique ? 2 milliards de personnes en Afrique dans quelques années.
L'Inde.
Bon, le Brésil, l'Inde, c'est impossible. Mmh. Donc, il faudra passer par là. Je pense que pour la France, il est très très important d'avoir en effet une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faudra ouvrir ce dossier. On ne pourra pas. Ou alors, il y aura un second ONU de l'autre côté qui sera évidemment très dangereux. Donc ça, il faut le faire. Et deuxièmement, je crois qu'il faut faire rentrer un peu plus la société civile dans les discussions.
Au bout du coup, pour revenir sur Ebola, vous parliez peut-être d'une grande coalition contre Ebola.
Oui.
Maintenant, dans l'urgence, parce qu'on est quand même dans une situation extrêmement urgente, qu'est-ce qui peut se passer? Il paraît que les soignants manquent ne serait-ce que de gants pour traiter
les soignants meurent,
cette maladie.
D'abord.
Se propage par le contact des fluides.
Il faut immédiatement envoyer des gens qui sont des spécialistes, qui sont des médecins.
Alors, Cuba le fait, 165 personnels. Mmh. Et les autres pays, Cuba est le pays qui envoie le plus de personnel soignant en Sierra Leone. 165 personnes, les autres...
Il faut faire un appel à volontaires. Je suis persuadé qu'il y aura beaucoup de nos confrères qui iront là-bas. Il y aura beaucoup d'infirmières, il y aura beaucoup de gens qui iront. Personne ne laissera ces gens-là. Je suis persuadé qu'il faut simplement...
Qui doit coordonner
les entourer. Voilà, il faut que ce soit coordonné au niveau des Nations Unies par une coalition internationale en mettant des contingents américains, des contingents français, des contingents de différents pays du monde, en effet. C'est la seule solution et c'est une extrême urgence.
Et il faut former des personnels.
Et il faut
ici
en même temps,
et là-bas.
Oui, il faut former les personnels, mais ça... Malheureusement, c'est une grande histoire. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de sage-femme en Afrique, quand vous voyez que il y a des ONG formidables comme certaines, l'AMREF par exemple, qui forment des sages-femmes, mortalité infantile considérable dans ces pays, pas de sage-femme. Pourquoi ? Parce que évidemment, une femme meurt toutes les minutes, soit juste avant l'accouchement, soit pendant l'accouchement, soit juste après. Bon, c'est une honte. Donc, en effet, la formation des professionnels et aussi ce que j'appelle un système de santé de base, comme nous disions tout à l'heure.
Alors, il y a eu un coup d'accélérateur aussi du côté de la recherche, notamment pour les vaccins. Et on parle d'un vaccin qui pourrait être testé dès le mois de novembre. Comment est-ce que vous expliquez que tout d'un coup, les choses se débloquent comme ça ?
Mais c'est terrible, vous savez, sur le paludisme, je crois que pratiquement la grande majorité de l'argent pour le vaccin est donné par un privé, par Monsieur Gates. Pourquoi ? Parce que ça ne touche pas les pays occidentaux. La dengue, on cherchait depuis très longtemps, mais personne ne s'en intéressait parce que ça ne touchait pas les pays occidentaux. Et puis avec le changement climatique, évidemment la dengue est remontée. Et puis on l'a retrouvée pas loin des côtes américaines. Et brutalement,
ça devient
quelques
un sujet.
Années, on va trouver le vaccin. Et donc ça c'est terrible, ça s'appelle l'égoïsme. On parle depuis une heure de ça. C'est est-ce que l'homme occidental peut comprendre un instant que, mais avec rien du tout, avec quelque chose qui est totalement indolore, nous pouvons changer le monde, car sinon, on n'a aucune chance de rester chez nous, tranquille, au chaud, quand on voit que des menaces sanitaires ou autres, d'ailleurs climatiques, on pourrait dire la même chose, du climat, nous menacent.
Philippe Doustelazy, vous êtes un homme politique français, je le disais en vous présentant tout à l'heure, on ne peut pas résister à vous interroger, même si vous n'en êtes plus acteur aujourd'hui, sur la situation politique en France. Vous appartenez à ce qu'il est convenu d'appeler le centre qui voulait être au fond la troisième composante, le tripartisme, pas que gauche et droite. Il y a bien une troisième formation politique aujourd'hui en France, mais c'est le Front National, aux portes du pouvoir, comme dit le Premier ministre. Comment est-ce que vous réagissez?
D'abord, étant secrétaire général adjoint des Nations Unies, je n'ai pas le droit...
J'ai bien compris.
...de devenir brutalement un partisan de qui que ce soit. Non, ce que je crois, c'est que ce pays a besoin d'être gouverné. Au centre, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ni droite ni gauche. Au centre, ça veut dire qu'on respecte l'individu, bon, mais en même temps, on est contre... cet ultralibéralisme qui vise quand même à oublier justement ce qu'est l'être humain. Et donc, je crois qu'il y a la nécessité de rassembler les Français. Quand je le vois de l'extérieur, quand je le vois des États-Unis ou de New York, souvent, je suis très très étonné des micro-guerres, je dirais, des conflits qui existent dans ce pays, alors qu'on fait comme si on voulait créer... ces guerres, alors qu'il faut rassembler ce pays. Ce pays est un des pays les plus extraordinaires dans le monde. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères, c'était pas Philippe Doustelazy, c'était je représentais ce pays qui, pour des millions, des centaines de millions de gens, représente les droits de l'homme depuis la Révolution, depuis 1789. Nous représentons ça. Quand on a créé United, c'est ça, c'est notre idée. Quand on parle des financements innovants, c'est ça. Eh bien, je pense que le centre, oui, c'est ça, c'est l'humanisme. C'est un peu plus humaniste. Ça veut dire faire des grandes réformes. Mmh. Ça veut dire faire les réformes de l'assurance maladie totalement nécessaires, que j'ai pas faites à l'époque, qu'il faut faire. On peut pas continuer à dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est pas possible.
Sophie Malibu.
Les grands problèmes de la mondialisation, il faut les attaquer aussi sur le flanc national, ou c'est aussi l'Europe qui devrait justement s'impliquer?
Si l'Europe ne se dote pas de moyens politiques pour exister, malheureusement, notre avenir sera excessivement sombre. Donc, il faut mettre des chefs politiques, que ce soit les ministres des Affaires européennes ou que ce soit le président du Conseil, il faut plutôt des gens qui font de l'ombre aux hommes, aux chefs d'État nationaux, plutôt que le contraire.
Plutôt que l'inverse. Rémi ?
Mais est-ce que justement la montée des nationalismes et des ultranationalismes en France, en Europe centrale, ne menace pas cette idée de solidarité internationale et de financement de campagne internationale?
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aide publique va baisser parce que les pays vont se replier sur eux. En disant, pensons à nous, et après on verra. Je préfère même pas dire ce qu'un ancien président de parti politique a dit sur Ebola. Je veux dire, c'est évidemment, ce repliement sur soi est épouvantable. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire les deux ou trois réformes que tout le monde connaît pour baisser les dépenses de notre pays, pour pouvoir enfin faire en sorte que la croissance reparte, que des entreprises, parce que les chefs d'entreprise, ce sont quand même ceux qui emploient des gens, repartent. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne après Schröder, regardez ce qui se passe en Pologne, alors que ces gens-là ont fait des réformes extraordinaires, il faut repartir comme ça.
Dernière question, Sophie Malibu.
On baisserait les dépenses, mais on sanctuariserait tout de même l'aide publique
à nouveau développement. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, Monsieur Cameron a baissé de 92 milliards de livres sterling son budget en sanctuarisant une seule chose, le DFID, le ministère de l'Action du Développement britannique. Il faut faire pareil.
Merci Philippe Doustelazy d'avoir été aujourd'hui l'invité d'International. Merci pour votre présence. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'ONU. Nous reparlerons d'ailleurs prochainement sur nos antennes de RFI ou TV5 de l'Assemblée Générale qui va se dérouler. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Merci.